Nous allons parler des cosmétiques. Quelle est l'efficacité des cosmétiques bio? Alors pour en parler, Anne Guéquière de Féminin Bio, bonjour.
Bonjour.
Et puis votre invité, Sylvie Empiquian, bonjour.
Bonjour.
Alors Sylvie Empiquian, vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Moi j'en ai recensé notamment un, Créer vos cosmétiques bio, c'était en 2007. Mmh. Il y en a d'autres plus récents.
Oui, en fait, sur le thème des cosmétiques, dans la collection Féminin Bio, j'ai également rédigé Les secrets des plus belles femmes du monde, qui est un petit tour d'horizon, un tour du monde, des recettes de beauté depuis la nuit des temps.
Alors justement, bonjour Sylvie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes experte, vous êtes pharmacotoxicologue, vous êtes, comme vous l'avez dit, auteur de nombreux ouvrages, également conférencière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours ?
J'ai un parcours qui est un petit peu atypique, en fait, parce qu'à la base, je suis vétérinaire. Et dès la sortie de mes études, j'ai suivi un peu les chemins de traverse, puisque je suis partie vers la recherche, par la grande porte, puisque j'ai débuté à l'Institut Pasteur. Et ensuite au centre de transfusion sanguine, puis pour des raisons personnelles, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique où j'ai découvert le domaine méconnu du grand public que sont les affaires réglementaires. Donc en gros, c'est ce qui concerne la préparation du dossier qui va permettre aux médicaments d'obtenir ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai obtenu le titre d'expert pharmacotoxicologue. Parce que c'était cet aspect des médicaments que je traitais. Donc, j'ai travaillé en freelance dans ce domaine comme consultante. Et de proche en proche, parallèlement, moi, j'ai toujours eu un intérêt pour la plante médicinale et les secrets de beauté à base de plantes, hein, principalement. Je fais partie de la génération où, à l'adolescence, on était des fans de Mességuier. Donc, voilà, j'adorais ses livres. J'étais un pied dans le médicament, un pied dans la plante.
Alors, Mességuier, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous repréciser un peu ?
Ah, Maurice Mességuier était, si je ne m'abuse, enfin il est toujours en vie, était le fils d'un guérisseur, d'un naturopathe, mais comme on pouvait l'entendre dans les années 50. Et il a été quand même un des acteurs de la redécouverte de la plante médicinale. Il a écrit de nombreux livres, dont notre Bible, quand j'étais adolescente, Mon herbier de beauté. Et nos mamans lisaient Mon herbier de santé. Et donc, il a quand même, dans les années 70, remis la lumière sur la plante médicinale qui était en voie de disparition après l'arrêt du diplôme d'herboriste en 1941. Donc, voilà.
Alors on va revenir sur ces sujets parce que c'est vrai que vous êtes passionné par les ingrédients, par les plantes, par tout cette belle nature finalement qui est à notre disposition également pour créer ces cosmétiques bio soi-même. Avant d'aborder ce sujet en détail, on reproche souvent l'inefficacité potentielle des cosmétiques bio en se disant que finalement la molécule de synthèse est probablement beaucoup plus performante. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Ah ben je vais être très affirmative. Moi, je suis absolument convaincue du contraire. Je suis absolument convaincue du contraire et je suis loin d'être la seule. Il y a vraiment en ce moment un renouveau. Hein, on sent vraiment un renouveau. Enfin, disons une grande méfiance vis-à-vis de la molécule chimique et un grand retour vis-à-vis de la molécule naturelle et même plus précisément du totem, c'est-à-dire de la plante prise dans son ensemble. Et on utilise un ensemble biologique qui est la plante ou un extrait de plante pour traiter un ensemble biologique qui est l'organisme humain ou animal, parce que je suis vétérinaire. Donc on a vraiment un grand retour et de plus en plus un désamour du chimique. Et donc moi je suis absolument convaincue du contraire, aussi bien pour la santé que pour la beauté.
Alors justement, ça amène la question suivante. Pour bien comprendre pourquoi ils sont potentiellement plus efficaces, il faut, je pense, comprendre bien la composition d'un cosmétique conventionnel versus un cosmétique naturel. Vous pouvez nous décrypter, nous faire un petit décryptage.
Alors déjà, si on prend par exemple une crème, dans une crème conventionnelle chimique, la plupart du temps, la base grasse est de l'huile minérale. Or, l'huile minérale est une molécule morte. C'est une molécule qui n'a rien à voir avec le vivant. elle a eu à voir dans des temps très ancestraux, puisque c'est un dérivé du pétrole.
C'est inerte, en fait, c'est ça ?
Mais c'est une molécule inerte qui n'a pas d'affinité pour la peau. Donc, elle va se contenter de former un film à la surface qui va empêcher l'évaporation et protéger un petit peu des aléas climatiques, mais point barre, elle ne fait rien de plus.
Alors là, typiquement, c'est Paraffinum liquidum, c'est Burk-Burk, c'est un dérivé de la pétrochimie. On n'a pas envie de se mettre ça sur le visage, de toute façon.
Disons que... D'un point de vue toxicologique, il y a pire, mais d'un point de vue biologique, il y a beaucoup mieux.
D'accord. Alors, à contrario, comment est composé un cosmétique bio, justement ?
Alors, donc, si on prend, par exemple, la base grasse, d'un cosmétique bio va être une huile ou un beurre végétal. Et donc, en plus de l'activité, de cette activité filmogène, c'est-à-dire formation d'un film à la surface de la peau pour empêcher l'évaporation de l'eau, ça va être une partie de ses activités. Mais l'huile végétale, elle est composée d'acides gras qui vont pénétrer jusque dans l'interstice des cellules de l'épiderme. Parce que ça peut paraître étrange, mais l'épiderme... En dehors de la couche grasse qu'on a, le sébum, l'épiderme est constitué majoritairement de matière grasse, même s'il a un aspect qui semble sec. Donc, une grande affinité pour ces corps gras naturels. L'huile végétale pénètre jusque dans la membrane des cellules mortes, des cellules épidermiques, et va améliorer leur souplesse, leur résistance à l'évaporation de l'eau, et ce qu'on appelle la fonction de barrière cutanée, c'est-à-dire une semi-perméabilité de l'eau qui laisse entrer ce qui est bon et qui laisse pas entrer ce qui est pas bon, en gros. Voilà.
Donc, en somme, la base est elle-même principe actif.
La base est active, exactement. Et en plus, l'huile végétale véhicule d'autres actifs. Il n'y a pas que ces fameux acides gras polyinsaturés. Il y a aussi de la vitamine E, il y a du squalène, il y a des céramides dans ce qu'on appelle la partie insaponifiable. C'est pratiquement un cosmétique en soi.
Alors, qu'est-ce qui n'est pas contenu finalement dans un cosmétique bio ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve en cosmétique conventionnel ? Parce qu'il y a à la fois, vous le dites, de très bons ingrédients, puisque les bases elles-mêmes sont principes actifs, ce qui fait leur efficacité. Mais qu'est-ce qu'elles ne contiennent pas également ?
Alors, bon, les labels bio dont on a parlé ce matin de manière très très intéressante, l'équipe de Velleda a très très bien présenté les labels ce matin. Donc, les labels bio donnent la garantie que les ingrédients chimiques les plus considérés comme les plus toxiques ou du moins les plus douteux ne sont pas présents. Alors, on parle des parabènes, mais il y en a d'autres.
Donc, il y a quoi ? Pas de parfum de synthèse ?
Pas de parfum de synthèse, pas de musc de synthèse dont on sait qu'ils sont très toxiques. C'est un antioxydant qui s'appelle BHT, BHA, qui, à mon avis, est plus toxique encore que les parabènes.
Donc, pas de conservateur de synthèse ?
Voilà. Alors, il y a des conservateurs de semi-synthèse parce que bon, il y a quand même malgré tout des contraintes dans les cosmétiques industriels. Donc, on peut trouver quelques substances chimiques qui sont généralement de semi-synthèse, mais qui ont été sélectionnées quand même pour leur absence de toxicité. Il y en a certaines auxquelles on reproche d'être un petit peu irritantes. Mais ça va être un effet fugace et sans danger pour la santé.
Est-ce que la manière de fabriquer ces cosmétiques bio change radicalement de la manière de fabriquer les cosmétiques conventionnels ?
Ah oui, tout à fait. Parce que généralement, dans les cosmétiques conventionnels, il y a quelques grands formulateurs et les laboratoires achètent une formule toute prête. Qui est émulsionné, qui est stabilisé. Pour un cosmétique bio...
C'est plus artisanal.
C'est plus artisanal. Et puis, comme il y a beaucoup moins d'ingrédients, il faut que ces ingrédients se marient bien entre eux. Enfin bon, je pense qu'il y a un plus gros travail de formulation. Et puis, il y a beaucoup plus d'actifs. Enfin bon. Oui, c'est une manière tout à fait différente.
Alors, on va revenir sur aussi votre expertise, c'est-à-dire la création de cosmétiques bio homemade, puisque c'est vraiment un grand retour. Le homemade, le fait main, fait à la maison, est une très très grande tendance de fond. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui achètent elles-mêmes leurs actifs, leurs huiles essentielles, leurs huiles végétales et qui aiment faire leur petite tambouille à la maison et qui finalement se transforment parfois même en, en formulateur de laboratoire, parce qu'on peut avoir parfois, vous le faites vous-même, Sylvie, des formules qui sont très élaborées. Je me souviens, la dernière fois, vous m'avez offert un parfum qui était absolument remarquable. Alors, pourquoi cette tendance? Et finalement, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est facile? Combien ça coûte?
D'accord. C'est amusant quand vous me dites qu'il y a de plus en plus de femmes. En fait, c'est un retour, en fait, parce que l'industrie cosmétique est très jeune, elle n'a pas 100 ans. Donc pendant des millénaires, les femmes ont fabriqué leurs produits. Alors il y a eu des ratages dans le passé. On utilisait la céruse notamment, qui était très toxique. Donc maintenant on connaît les bons produits, et il y a d'ailleurs maintenant des fournisseurs qui permettent aux femmes d'avoir une grande gamme de produits très performants. Donc fabriquer ces cosmétiques, ça a de multiples avantages, notamment c'est économique. Même s'il y a un petit investissement de départ, mais cet investissement, je dirais que c'est le prix d'une crème de jour, une crème de nuit dans une grande marque. Et à partir de là, on va pouvoir faire toute sa gamme de produits, inclure le bain, le shampoing.
Juste une petite seconde, en fait, justement, comment on fait pour répondre à la deuxième question, qui était dans la première question, c'est que justement, quelles sont les bonnes pratiques, hein, parce que c'est important quand même de préciser qu'il y a un petit peu des précautions à prendre. On ne se lance pas là-dedans comme ça.
Alors, il y a un minimum d'hygiène à avoir, bien sûr, mais je dirais que toute maman qui a eu un bébé et qui sait préparer un biberon pour un nourrisson va savoir préparer le matériel pour fabriquer ses cosmétiques. En termes d'hygiène, c'est à peu près comparable. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de produits qu'on prépare, qu'on utilise tout de suite. Donc là, il faut travailler proprement et sans précaution.
Il n'y a pas d'ustensile particulier, de réchaud, je ne sais pas.
Moi, personnellement, je suis assez artisanale, donc je travaille avec des ustensiles de cuisine, mais il existe des bains-marie, thermostatés, des thermomètres, des petits agitateurs, des petits mixeurs de taille adaptée. Personnellement, moi, je suis un petit peu rustique.
On peut ressortir le kit du petit chimiste qu'on avait reçu en enfant à Noël.
Oui, surtout les éprouvettes. Là, par contre, les éprouvettes, c'est très utile, parce que je dirais que la chose qu'il faut vraiment maîtriser, c'est le dosage. Mais essentiellement, enfin, c'est le cas de le dire, le dosage des huiles essentielles, parce que ce sont les seuls ingrédients sur lesquels on va avoir, en termes toxicologiques, vraiment à prêter attention et surtout pas faire de surdosage. Et il y a même certaines contre-indications.
Alors, des éprouvettes sans bisphénol A, donc pas en plastique, de préférence
voilà,
en verre.
De préférence en verre.
Il y a de perturbateurs endocriniens dans nos cosmétos.
Alors, on va revenir aux huiles essentielles, mais d'abord, cette question, c'est du direct. Donc, on a cette question de Marie qui est sur le stand de Féminin Bio, qui nous demande comment s'assurer que ces cosmétiques bio ne sont pas testés sur les animaux.
Le label Cosmé Bio garantit que ce n'est pas testé sur les animaux. C'est dans le label. Donc, par contre, pour BDIA, je ne sais pas, mais je pense. La plupart des labels Cosmé Bio déjà garantissent. Alors, il y en a qui rajoutent un petit peu plus le label non testé sur animaux, mais normalement, ça fait partie du cahier des charges.
Il faut rappeler que jusque d'ici 2013, si je me rappelle bien, l'Union européenne a fait voter une loi qui interdit les tests des cosmétiques et de parties de cosmétiques sur les animaux. Donc normalement, en 2013, plus aucun cosmétique qui sera vendu dans l'Union européenne n'aura été testé sur des animaux.
Oui, avec juste un petit bémol, c'est que ceci concerne de mémoire la formulation finale, mais pas forcément l'ingrédient de démarrage. C'est pour ça que certains fabricants rajoutent également le label One Voice, on peut parler de ce label,
tout à fait,
les paquets pour à destination des végétariens, par exemple, des gens qui veulent vraiment avoir la garantie que même la matière première n'est pas utilisée.
Oui, tout à fait. C'est un excellent label.
Oui. Alors, pour revenir sur la cosmétobio, est-ce qu'il y a la cosmétobio, on a vu, en termes de soins, est plus efficace, a une efficacité plus forte de par la constitution même de ses principes actifs que la cosmétique conventionnelle? On peut aujourd'hui l'affirmer à la fois de par les études qu'on a et puis l'expérience que vous pouvez avoir. Mais est-ce qu'il y a des domaines ou est-ce qu'il y a des bémols où l'efficacité, finalement, est un peu moindre? Je pense, par exemple, aux colorations capillaires ou aux solaires, par exemple.
Alors oui, la coloration capillaire est un grand sujet qui intéresse beaucoup de femmes pour deux raisons. D'une part, parce que dans la démarche bio, on a envie d'utiliser des produits naturels. Et d'autre part, parce que c'est probablement le cosmétique le plus toxique en conventionnel. Il y a vraiment des produits extrêmement nocifs dans les colorations.
Je crois que le cancer le plus répandu chez les coiffeurs est le cancer de la vessie parce que ça se métabolise à cet endroit-là. Hein.
Tout
c'est des gens de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui m'ont donné ces informations.
Tout à fait. Et les coiffeurs ne prennent pas assez de précautions. Ils devraient porter des masques lorsqu'ils posent, parce que ce sont des produits qui sont volatiles. Donc oui, c'est donc il y a les deux aspects. On a envie d'utiliser des produits naturels et on voudrait ne pas utiliser ces colorations chimiques. Alors les colorations végétales 100% naturelles, en fait c'est de la poudre de plantes hein, ou des mélanges de poudre de plantes tinctoriales, marchent bien. Le henné est ancestral, l'indigo aussi, ça marche bien, mais il y a deux problèmes, c'est que le temps de pose peut être très long. Ça peut être toute une nuit hein, si on veut un bon résultat dans certaines conditions. Et les cheveux blancs ne sont pas toujours bien couverts, et donc ça, c'est un petit peu dommage.
Et alors, est-ce qu'il y a des techniques pour améliorer ou des substances
en
à
fait,
ajouter
En fait, moi, je participe au forum de Féminin Bio et c'est le sujet qui passionne le plus les femmes. Elles s'échangent des recettes. Bon, il y en a qui font. Qui alterne coloration semi-naturelle, coloration naturelle. Enfin, chacune cherche sa solution. Bon, je pense qu'une jeune fille qui veut donner des reflets à sa chevelure, il n'y a aucun souci, ça marche très très bien. C'est à partir d'un certain âge, quand on a les cheveux blancs, que là, ça commence à être un petit peu embêtant. Parce qu'il y a, par exemple, l'indigo rend ce qu'on appelle le henné noir, mais qui est de l'indigo, les cheveux blancs, ils peuvent ressortir verts. C'est un petit peu gênant.
C'est embêtant.
Donc, il faut savoir, effectivement, qu'il y a des limites. La femme qui cherche à retrouver le noir corbeau de ses 15 ans ne pourra pas avec une coloration végétale. Techniquement, on n'a pas la même
pour l'instant, non.
Puissance que la chimie. Alors, on parlait aussi des solaires. Alors, pourquoi les solaires, que ce soit bio ou en conventionnel, d'ailleurs, ne sont pas forcément une panacée?
Alors, bon, ça, c'est un sujet que je connais un peu moins, que j'ai moins étudié. Mais bon, déjà, il y a eu des limitations au niveau des indices. Et donc, très honnêtement, c'est pas le sujet que je connais le mieux. Mais que ce soit dans le domaine du solaire ou dans le domaine de la coloration capillaire, je pense que le fait que les grands groupes s'intéressent de plus en plus avec les moyens dont ils peuvent disposer à ces domaines-là, moi je suis persuadée qu'on arrivera à trouver des solutions en combinant l'expérience de la chimie sans ses actifs et les avantages des ingrédients bio. Je suis vraiment désolée sur le solaire, je connais assez mal ce sujet.
Ça pourrait être un sujet à part entière, on reviendra dessus une autre fois. On va revenir sur vos livres, puisque vous avez écrit aux éditions Erol votre dernier livre sur la beauté, Les secrets des plus belles femmes du monde, où vous donnez, à la fois c'est un voyage dans le temps, et puis aussi un voyage à travers les différents pays et les beautés du monde, puisque vous livrez des secrets de beauté de ces femmes. Alors nous, on a envie de savoir, enfin les auditrices de FéminBio.com et puis de tous ceux qui nous écoutent aussi sur Fréquence Terre, on a envie de savoir quels sont les recettes qui marchent, les ingrédients qui marchent pour être belles et qui fonctionnent. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits secrets de recettes?
Moi, j'ai un gros, gros, gros coup de cœur. Moi, c'est le gel d'aloès. Ah oui. Alors, attention à la qualité.
Alors, le gel d'aloès dit aussi aloe vera. Hein,
okay. Aloe vera, voilà. De son petit nom scientifique, aloe barbadensis. Alors, bizarrement, il n'est pas du tout originaire des Barbades, mais il est originaire probablement de la péninsule arabique. Mais pour diverses raisons, il porte ce nom parce qu'il a été implanté après l'arrivée des colons dans cette région.
Et on l'utilise de quelle manière ?
De toutes les manières. C'est la panacée. C'est la panacée. Alors l'aloe, c'est assez étrange parce que c'est à la fois un produit qui est ancestral, mais qui était utilisé, on utilisait le gel frais pour soigner les plaies, etc. Mais en Occident, il n'est connu que depuis une trentaine d'années. Et parce qu'on arrive maintenant à stabiliser le gel. Et ce gel stabilisé, c'est la panacée. Et ça sert de soin après solaire, ça sert de gel pour les cheveux, pour fixer les cheveux, et dans tous les soins de la peau, notamment les peaux irritées. À mon avis, c'est le meilleur hydratant.
Donc un bon antiride. Hein.
Antiride, il ne contient pas trop de ces fameux antioxydants, mais de toute façon, il rétablit tellement l'équilibre de la peau qu'il la stimule. Pour moi, c'est une panacée. La seule chose qui lui manque, c'est les acides gras. Donc mon deuxième coup de cœur, ce sont les huiles végétales. Et avec, j'ai une petite préférence, moi, pour l'huile de rosier et muscat. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très bien. Et la simple association d'une noisette de gel d'aloès, d'un volume à peu près équivalent d'huile de votre choix, mais bon, moi je dirais rose musquée ou jojoba, qui n'est pas une huile mais une cire, mais qui a une très bonne affinité pour la peau, argan. Vous mélangez ça dans le creux de la main, vous avez la meilleure crème hydratante.
Et pour quel prix ? Alors là, par exemple, on a une crème géniale, bio, complètement naturelle.
Prix, c'est difficile à dire, parce que l'investissement, c'est à peu près 30 euros, mais ça vous fait 6 mois de traitement.
D'accord.
Est-ce que ça prend du temps à fabriquer ? Parce que j'imagine que vous fabriquez vous-même vos cosmétiques.
Tout à fait.
Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps par semaine, par mois ? Je sais pas.
Alors moi, comme je disais, j'aime bien les recettes un petit peu simples et rustiques. Bon, c'est mon choix. Et donc, moi, ça me prend 5 minutes. Ça me prend 5 minutes, même pour ce que je fais de plus élaboré, c'est mon démaquillant. Et en gros, j'agite 3 ingrédients, donc c'est vite fait. Après, j'ai quelques amis.
On peut avoir le petit secret du démaquillant, Sylvie ?
Et ben, c'est un mélange, toujours pareil.
Je suis sûre que ça intéresse Grégory.
Tout à fait.
Toujours mon fameux gel d'aloès, huile végétale, et j'ajoute à cela un hydrolat, une eau florale.
Par exemple
L'eau de rose, qui est polyvalente.
Superbe.
Tout simplement. Mais par contre, c'est vrai que j'ai des amis qui se surnomment entre elles les cosmetteuses et qui, elles, élaborent des produits qui n'ont rien à envier aux produits industriels, bio, mais industriels. Elles sont équipées. Donc là, je pense que ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est un loisir, c'est pas une corvée. Donc on ne mesure pas le temps.
Ça ne se quantifie pas voilà. En temps, oui.
Alors en fait, ce sont des savoirs que finalement avaient nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, enfin pour certaines, parce que finalement on fait presque maintenant des choses plus élaborées, parce qu'on a accès à des matières premières qui viennent du monde et auxquelles elles n'avaient pas forcément accès.
Mais comme le gel d'aloès.
Le gel d'aloès. En même temps, on est dans un temps où on essaie de privilégier les matières premières locales. Donc quel pont faites-vous un petit peu entre ces femmes d'autrefois et nous aujourd'hui ? Quelle balance on peut trouver quand on fait ces cosmétiques homemade ?
Par exemple, pour l'exemple que je prenais, moi j'ai cité l'huile de rosier muscat, mais on peut très bien utiliser une huile de tournesol bio locale, une huile d'olive. L'huile d'olive est un excellent cosmétique. Et puis on peut utiliser aussi tout ce qu'on a dans sa cuisine, enfin pas tout, pas la moutarde, hein, mais on peut utiliser toujours en bio hein, pour avoir une garantie de qualité optimale, des farines, les fruits, le lait, les yaourts. Donc,
quel genre de fruits par exemple ?
Beaucoup de fruits, mais pratiquement tous, mais il y a des stars, notamment la fraise.
Et alors la fraise, on l'utilise ?
Tout simplement mixée. Et alors on peut la mélanger à 2-3 ingrédients, par exemple à une huile, pour faire un masque un peu plus élaboré. Mais le simple masque à la fraise, c'est le masque idéal pour les jeunes filles notamment, parce que il est anti-acnéique et puis en plus il donne bonne mine. Mais c'est vraiment... Moi j'aime les masques bio maison, comme ça, fait avec des ingrédients frais. Moi je me souviens, avant de passer à la bio, c'est-à-dire avant 98 et qu'on ait l'étiquetage des produits, je faisais des masques que j'achetais dans le commerce et tout. J'enlevais le masque et je me regardais dans le miroir et je disais, mais so what quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que ça a fait ? J'ai fait ce masque.
Moyen, quoi.
Oui, voilà. Par contre, quand vous faites un masque à la fraise, un masque aux pétales de rose.
Là, ça donne envie, tout de suite.
Et quand vous l'enlevez, j'ai 5 ans de moins.
Alors, sans dévoiler de secret, mais quand même un scoop, vous allez bientôt publier dans quelques mois un livre sur les secrets de beauté avec l'Ayurveda, qui est donc la médecine traditionnelle indienne, qui est vieille de 5000 ans, c'est ça à peu près ?
Oui, au moins.
Alors, vous êtes intéressée à ça ? De toute façon, vous êtes une passionnée et vous vous intéressez à beaucoup de choses. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que la beauté, finalement, avec l'Ayurveda ?
Alors, en fait, la cosmétique ayurvédique n'existe pas réellement parce qu'il n'y a pas d'écrit. Mais l'Ayurveda, c'est, comme on disait tout à l'heure, l'aspect, la globalité de l'être. Donc, il y a toujours un peu un rapport avec la beauté, malgré tout, dans les soins. Donc, pour les puristes, la cosmétique ayurvédique n'existe pas réellement, mais bon, tout est lié en Inde. Et donc, moi, ça serait plutôt l'utilisation des plantes ayurvédiques pour la beauté. Et il y a quelques trésors, mais vraiment incontournables.
Par exemple ?
Alors, le shikakai pour se laver.
Le shikakai, vous avez déjà entendu parler de ça ?
Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est très mignon comme nom.
Pas du tout une race de chien.
C'est pas un chihuahua, le shikakai. Hein.
Le shikakai est une plante qu'on utilise comme shampoing.
D'accord.
Et qui non seulement nettoie les cheveux, les embellit et couvre les premiers cheveux blancs et évite le grisonnement. Si j'avais connu ça plus tôt.
Ah.
Dans ce cas-là, ça marche. C'est pas comme le henné, ça couvre vraiment.
Ça couvre, mais si
en préventif.
En préventif.
Vous avez retenu, hein, voilà. Parce que vous êtes encore jeune. Mais
le shikakai, je le note pour les cheveux blancs.
Voilà. Il y a une plante qui s'appelle le mangista, toujours de très jolis noms.
Hein. Oui.
Le mangista, connu aussi sous le nom de garance indienne, qui est un actif anti-acnéique, c'est-à-dire à la fois traitant et cicatrisant, qui est absolument spectaculaire. Alors, il y a l'amla, qui est un fruit et qui a de multiples usages, aussi bien pour la peau, qui est anti-acnéique notamment, mais également pour les cheveux, qui a un peu moins nettoyant, mais à peu près les mêmes propriétés que le shikakai.
Parce que j'étais en Inde il y a quelques années, en 2003, je crois, ou en 2002, et donc j'étais allée dans un centre ayurvédique, un spa, un truc de bien-être, et j'ai souvenir, parce que vous parliez de masque à la fraise tout à l'heure, Grégory, et Sylvie parlait de yaourt et des ingrédients qu'on a dans le placard, et j'ai souvenir, effectivement, qu'on m'avait fait des mélanges, des sortes de purées, comme ça,
avec de la farine de pois chiche,
voilà, d'épices, etc. Et qu'effectivement, j'avais eu un peu le même réflexe que vous. Je m'étais dit, mais ça marche, alors qu'effectivement...
C'est spectaculaire.
Ouais, c'était de manière spectaculaire. Donc, j'en ai un excellent souvenir. On est très pressé que votre livre sorte sur ces secrets de beauté.
Alors, ça marche. Et alors, justement, cette question, nous sommes en direct, je vous le rappelle, du Salon Planète Durable. Et Mathilde, qui est sur le stand, nous demande si c'est efficace, tous ces produits bio. Pourquoi les grandes marques ne font pas du bio ?
Alors...
Très bonne question.
Oui, c'est une bonne question. Ben, les grandes marques, ce sont des trains très très lourds. Donc il faut une locomotive très puissante pour les faire avancer.
Vous voulez dire qu'ils sont là surtout pour faire de l'argent, c'est ça ?
Non, c'est pas ça, mais c'est que c'est une grosse machinerie. On ne peut pas passer du jour au lendemain. Ils ont les installations, ils ont la communication, ils ont des gammes déjà établies. Donc c'est très difficile de basculer sur le bio, mais de plus en plus, elles s'y mettent. Voire elles allègent leur préparation.
Ce retour au bio, c'est pas une mode, c'est à votre avis, ça va continuer.
Je pense que c'est la tendance.
C'est la tendance, mais qui va se perpétuer.
Je pense que c'est la tendance, et également pour les soins thérapeutiques. Également.
Alors, je rappelle juste qu'on peut retrouver effectivement Sylvie Empiquian sur Féminin Bio, puisque c'est une grande experte de notre site, féminin-bio.com. Également ses nombreux livres, dont le dernier, Les secrets de beauté des plus belles femmes du monde, aux éditions Erol. Merci beaucoup, Sylvie.
Merci Sylvie Empiquian. Merci Anne Guéquière de Féminin Bio.